Tant de sang-froid, je sens mon cœur sourd muet, muet.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Campus. Et c'est l'histoire du rock. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour à tous. Cette semaine, un groupe que personnellement je ne connais pas trop, voire pas du tout. Je vais le découvrir avec vous, Sex Pistols.
Moi, ce que je connaissais, c'était le premier mot. Et puis, pour la musique, on va voir, parce que aujourd'hui, on a quand même relativement un problème assez grave, parce qu'on ne pourra même pas vous dire le titre, parce que... ça, j'ai l'impression que ça va être bordélique.
Ah, ça mouvement punk, écoute, on assure.
Ça va être bordélique, puisqu'en fait, j'ai tous les titres de l'album, qui est un genre de best-of. Le problème, c'est que j'ai pas l'ordre. Donc ça, aujourd'hui, ce sera une émission désordonnée.
Voilà.
Bon, c'est le morceau 1.
Voilà.
Et puis, tu vois, je suis avec que c'était le bordel. Il veut pas démarrer.
Ça y est.
We'll be right back. Vous êtes sur Radio Campus 106,6. Je t'en prie, Marie-Ange. Allez, Sex Pistols.
Et c'était le numéro 1. Ouais, Sex Pistols, en fait, un groupe punk rock anglais, bien sûr. Ça s'est formé en 75 à Londres. Et bien sûr, ils sont connus, reconnus pour être une déformation qui est vraiment à l'initiative du mouvement punk au Royaume-Uni. Hein. Sa formation, on la doit à quatre bonhommes. Johnny Rotten au chant, Steve Jones à la guitare, Paul Cook pour la batterie et Glenn Matlock à la basse. Matlock, oui, lui par contre, il est vite remplacé, je pense, 2 ans plus tard par Sid Vicious. Le fameux. Bon, malgré. On était étonnés, mais c'est vrai qu'ils ont fait une courte carrière de 3 ans. Un seul album studio enregistré, Never Mind the Bollock.
C'est celui qu'on utilise. Ne cherchez pas après les plages, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Bon, c'est 3 ans quand même, ils n'ont pas eu le temps de faire les bonnes impressions. Bon, en tout cas, côté impression, justement, ils en ont laissé une bonne. C'est vraiment l'irrémédiable groupe de punk rock anglais. D'après la presse et la BBC. Hein. Est-ce qu'on se passerait le numéro 2?
Mais bien sûr, et je peux te dire le temps qu'il dure, 3 minutes 1.
Associatives sont en danger, menacées par le numérique. Pour renseignements sur radioenlutte.free.fr.
t'en prie.
On est tous colonne vertébrale raide. Faites gaffe à ce que vous faites. Sarkozy, on te voit.
Allez.
Allez, c'est parti. Les membres du groupe Sex Pistols, eh ben non. Ils n'ont pas fait comme les autres. Ils se sont pas rencontrés dans une école. Pas du tout. Dans une boutique. Dans une boutique de vêtements.
J'ai cru que tu allais dire un sex shop, mais bon.
Ah, on y est. Bah, je
pas
ne sais
loin,
pas.
C'était un magasin de cuir.
Eh ben voilà. Donc, ils fréquentent très régulièrement deux magasins de vêtements à Chelsea. Le premier s'appelle, je dirais évidemment, Let It Rock. Et c'est surtout Let It Rock qui va devenir rapidement le point de fréquentation de la scène punk rock anglaise. Et de nombreuses personnalités vont s'y côtoyer, comme Sid Vicious, Mike Jones. Et tous, bien sûr, tous ceux qui fréquentent cette boutique sont contre la mode. Vous savez, cette mode, les cheveux longs, jeans évasés.
Un peu comme mode.
Un peu fleuri. Des années 70, quoi. Et début 74, Jones convainc McLaren d'aider la formation de The Strong. Bon, c'est le groupe initial, hein, disons avant-garde de Sex Pistols. McLaren va devenir manager du groupe et leur paye un premier local de répète, ce qui aide bien pour un groupe débutant. Et un certain Glenn Matcock, un étudiant en art, est alors recruté et désigné. Toi, tu seras bassiste régulier. Et en novembre de la même année, McLaren doit partir quelque temps pour New York. Et parallèlement à son départ, c'est la musique qui va changer de nom. Et justement, tiens, ça flairait le bon coup, ça va s'appeler Sex, tout simplement.
C'est une chose assez agréable, quand même, on peut dire.
Voilà.
Allez, le 4.
Le 4.
Sur Radio Campus avec le groupe préféré de la reine d'Angleterre.
Sex Pistols. Alors cette boutique renommée Sex continue d'accueillir la scène punk rock. Et en 75, Steve Jones et un certain Bernard Rhodes, qui sera bientôt le manager des Clash, aperçoit un type qu'il trouve bien intéressant, dont John Lydon, qui se fera connaître pour la scène musicale, Johnny Rotten. Hein. Et d'après Jones, John Lydon est venu avec des cheveux teints en vert. J'ai pensé qu'il avait vraiment...
J'ai eu un copain comme ça.
Ah, c'est dans ton adolescence, un reste. Donc j'ai pensé qu'il avait vraiment, vraiment un visage intéressant. J'aimais bien son look. Il portait un t-shirt avec les inscriptions « Je déteste Pink Floyd ». John avait quelque chose de spécial. Et quand il parlait, c'était un véritable enfoiré, mais élégant. Donc repéré, pas repéré, John Lydon est incité à chanter sur le jukebox de la boutique un morceau d'Alice Cooper, « I'm 18 ». Et malgré une interprétation risible, eh bien McLaren va convaincre quand même les membres du groupe à répéter avec John Lydon, cette voix particulière qu'on entend depuis tout à l'heure. Et la voix d'ailleurs me rappelle un peu les premiers morceaux de Tissimatic avec Arnaud qui s'y donnait à cœur joie dans les années 80. Un reste encore une fois dans les années 80.
C'est parti.
Potential height bomb.
Celui-là, je peux vous dire le titre, c'était God Save the Queen. C'est un morceau qui était repris par, par Canal+, et puis donc l'émission Groland. Et ça, ça avait été rejoué par un groupe français.
D'accord.
Et légèrement modifié.
Mmh. On reste en 75, et cette fois on est en septembre. McLaren, donc celui qui leur avait offert un petit studio, va louer un nouveau studio de répète. Bah parce que le groupe commence à monter sur scène dans les pubs londoniens, et bon là c'est un peu, cette fois c'est un peu comme tous les groupes. La formation acquiert, bah oui, peu à peu de plus en plus de notoriété. Et surtout, un nom définitif, Sex Pistols. Bon, c'est avec The Strand, bon, c'était peut-être avec le N un peu difficile à prononcer. Sex Pistols, ça sonne quand même mieux. Donc le jeune Quatuor s'arrange avec le bassiste Glenn Matlock, dont on parlait initialement. Lui, c'est quand même un étudiant, il étudiait à la Central St. Martin's College. Art et design. Bon, ben apparemment, il a décidé de faire aussi autre chose à côté. Et novembre 75, les Sex Pistols vont se produire pour la première fois dans ce nouveau local. Et ils vont gagner de plus en plus de notoriété auprès de la scène punk londonienne. Et c'est pour ça qu'on va y voir de plus en plus des personnalités assez célèbres, telles que Siouxsie Siux, hein, celle de Siux and the Banshees, et Billy Idol. Ça a été ma première émission avec Stéphane, Billy Idol. Tiens.
C'est vrai.
Non, mais je sais que ce matin, il m'appelait mes mères. Alors si je commence à évoquer les souvenirs avec Stéphane...
Commence pas, tu vas nous vieillir. Déjà l'histoire, déjà on fait l'état que vieux. Alors...
C'est vrai que...
Tu veux peut-être un morceau suivant ou...
Mais en tout cas, le look provocateur et radical des Sex Pistols, qui sont bien sûr issus de la boutique Sex, bon, crée une tendance que les proches du groupe adoptent. Ça y est, c'est aussi une mouvance de mode vestimentaire, comportementale, de maquillage, enfin la totale quoi.
Allez.
Come to me.
Il a fini de le dire, je crois. Hein. Ah, l'histoire du rock, c'est tous les jeudis de 15h à 16h et retransmis le lundi de 8h à 9h. Je t'en prie pour la suite.
Oh, celui qui se réveillera avec Sex Pistols.
Lundi matin, c'est en forme pour un autre.
Allez, on est en 76, dès le début de l'année 76. C'est une année charnière pour Sex Pistols. Ils vont commencer à élargir leur lieu de concert et vont d'abord se produire dans d'autres clubs londoniens. Et puis, sur invitation, la formation va commencer à surtout jouer son premier concert à Manchester. Et c'est cette performance-là qui va répandre le punk rock au Royaume-Uni, en fait. Hein. Donc, 76, c'est vraiment une année charnière pour eux. Et en parallèle, c'est deux groupes punk qui vont... qui vont se créer, Clash et Damned. Alors effectivement, je me disais, oh là là, je n'écoutais que Ramones. Mais non, c'est vrai, j'écoutais aussi Damned. Bien. Et Damned, justement, va jouer respectivement le 4 et le 6 juillet la première partie de Sex Pistols. Ça continue pour Pistols dès l'automne. Ils vont quitter la Grande-Bretagne, cette fois pour faire leur premier et leur seul concert sur Paris. Et ils vont finir par faire une tournée de 4 mois.
Un petit morceau, il dure que 2 minutes.
Bon.
Bientôt, vous devrez changer le poste radio sur lequel vous êtes en train de m'écouter et en racheter un nouveau. Et les radios associatives non commerciales n'ont pour l'instant aucun moyen d'émettre dessus. À l'occasion du passage à la radio numérique terrestre, qui vise à remplacer la bande FM d'ici quelques années, les radios libres sont en lutte. Plus d'infos et une pétition en ligne sur radiosenlutte.free.fr.
Il n'y a pas d'illusion à se faire, ça devient grave.
Et puis le pire, c'est que vous serez obligé de changer de pas seulement de poste, c'est de station, et puis vous peut-être changer d'animateur aussi. Bon, là, peut-être qu'ils vont être contents.
Je sais pas, hein, alors là, on va faire un sondage. Allez, on continue, on est... Ouais, 4 mois de tournée, bon, ça y est, ils montent en charge. Après le premier festival punk, dans un pub... Alors là, je vous le dirai en français, j'ai toujours eu une misère folle, même en langue des signes, à traduire les chiffres. Alors, le 100 club. Voilà, tant pis pour celui qui...
100 club.
Oui, mais... le chiffre.
Ah, d'accord.
Donc de 76, les Pistols vont, ça y est, signer un contrat avec le label EMI. Et c'est le premier single du groupe, Anarchy in the UK, qui est enregistré au cours du mois d'octobre et qui va sortir dès novembre 76. Il est produit par Chris Thomas, qui a également produit Roxy Music, et un morceau qui est mixé par Pink Floyd sur leur album The Dark Side of the Moon. Alors, comment s'appelait celui déjà qui disait « Je déteste Pink Floyd », ben, c'est peut-être une insulte. En tout cas, la rumeur commence à courir, annonçant que le groupe de punk rock, là, hein, qui monte, eh ben finalement, ils savent pas se servir de leurs instruments sur la scène. C'est la presse musicale qui va aller les voir de plus en plus intéressés et qui révèle, au contraire, que les Sex Pistols sont un groupe capable, tendu et sauvage en concert. Sauvage parce que, oui, c'est surtout l'attitude et le comportement des Sex Pistols qui va attirer davantage l'attention, mais que la musique elle-même, on est vraiment sur une rupture. Donc décembre 76, des admirateurs vont créer une espèce de tempête publicitaire là, pendant une émission un soir, en tout début de soirée, en plus hein, une émission grand public qui s'appelait Today. Il y a tout un tas d'admirateurs qui va débarquer sur le plateau, enfin bon, ça a été un branle-bas de combat, mais bien publicitaire finalement pour Sex Pistols. Et bien que l'émission ait été diffusée dans la région londonienne seule, c'est quand même un événement qui a causé la fureur dans la presse populaire les jours qui ont suivi. C'était tout cash pour eux. C'est cet épisode qui crée une publicité importante pour eux. Et le punk va s'intégrer vraiment de plus en plus dans le courant populaire. C'est-à-dire vraiment de plus en plus, le punk sera monnaie courante. Le groupe débute une nouvelle tournée, Anarchy Tour for the UK. Un grand nombre de concerts sont envahis, critiqués par la presse, hostiles, parfois même les groupes... Les concerts sont complètement annulés par les organisateurs et les autorités locales.
Suivant. Right.
Yeah.
106,6 en Sex Pistols.
Sex Pistols qui font pas bonne presse. Le conseiller municipal de Londres, dans une interview télévisée, va prendre position pour le punk rock, en tout cas en général. Certains de ces groupes gagneraient à mourir rapidement. J'aimerais voir quelqu'un creuser un immense trou pour pouvoir les y enterrer. Mais la mauvaise presse continue. Enfin,
à côté. C'est la reine d'Angleterre qui disait ça.
Elle lui a peut-être insufflé ce discours. Bon, de toute façon, EMI arrange quand même au groupe une série de concerts dès janvier 77 au Paradiso, une salle de Amsterdam. Mais voilà qu'avant l'embarquement à l'aéroport de Londres, Sex Pistols va engager une série de disputes avec les membres du staff de l'aéroport. Et Rolling Stone, le magazine rock, va relater les faits un petit peu, en tout cas un petit peu, parce que un témoin a affirmé que les Sex Pistols faisaient des choses tellement répugnantes qu'ils ne pouvaient pas les répéter en publication.
Mais là, si on peut, tu peux le dire. T'es à l'antenne de campus, tout est permis.
Oui, mais en tout cas, ils ne l'ont pas susurré à l'oreille. La rumeur court que Jones a vomi sur des femmes âgées dans la salle d'embarquement.
Seulement ?
Peut-être que c'était encore un peu pudique. Deux jours après les faits, EMI rompt son contrat avec Sex Pistols. Et Johnny Rotten va s'étonner et déclarer...
J'ai rien fait, moi.
Je ne comprends pas. Tout ce que nous essayons de faire est de tout détruire.
Que des belles paroles.
Et là ensuite, puisqu'on est déjà en 77, c'est l'arrivée de Sid Vicious. Les concerts du groupe de janvier 77 au Paradiso d'Amsterdam sont les derniers avec le précédent bassiste dont on parlait au début, Glenn Matlock. Lui, il se sépare du groupe en février. Et la légende populaire voudrait que Matlock est contraint de quitter la formation parce qu'il aime et écoute The Peters. Damned.
Bon, allez. Un petit morceau quand même de 4 minutes.
Non, pas des Beatles.
Non, surtout pas.
Oh,
C'est un peu étranglé à la fin, peut-être un morceau de pâté qui va gêner.
Il faudrait qu'ils boivent encore un peu.
Je crois qu'ils ont assez bu, je crois.
Alors exit Glenn Matlock pour ses goûts incompatibles avec Sex Pistols. Qui n'a donc plus de bassiste. Et c'est là qu'il décide d'intégrer donc un ami de Johnny Rotten, Sid Vicious. C'est l'ancien batteur de Siouxsie and the Banshees et d'un groupe dont je n'avais pas entendu parler, qui est The Flowers of Romance. Le manager, Malcolm McLaren, toujours le même, va approuver l'arrivée de Vicious. Mais il avouera plus tard qu'il a approuvé surtout son look et son attitude générale punk. Mais franchement, au détriment de ses capacités à jouer, en fait. Selon lui, quand Sid a rejoint le groupe, il ne savait pas jouer de la guitare. Mais
par contre, il savait vomir.
Voilà, mais sa folie s'est bien intégrée à la structure même de Sex Pistols. Il était le chevalier à l'armure luisante et au poing géant. Je ne savais pas qu'en plus, il savait manier la métaphore. En progrès. Tout le monde était d'accord qu'il avait le look, mais son talent musical était une autre histoire. Bon, apparemment, Sid Vicious avait eu une enfance très compliquée, difficile, donc il avait eu recours à toutes sortes de choses qui l'avaient amené, et bien précisément avec cet état punk, aux Sex Pistols. Son arrivée au sein du groupe.
Toi aussi, tu es au pâté ?
Non, merci. Merci. Donc, il arrive dans le groupe et, qui a été progressivement, on va dire, un peu destructeur. Hein. À l'année 77, Sid Vicious rencontre une certaine Nancy Spurgeon, une groupie aux sérieux problèmes émotionnels. Bon, c'est vrai que certains produits génèrent une gestion de l'émotion un peu difficile. Et cette fille va suivre les Sex Pistols, héroïnomane et prostituée. Elle sera tenue responsable de l'addiction à la drogue de Sid Vicious et de son éloignement progressif et marqué du groupe. Hein. Rotten va déclarer après la mort de Sid Vicious, parce que bien sûr, il est décédé. Nous avons tout fait pour nous débarrasser de cette Nancy, mais elle le tuait. J'étais absolument convaincue que cette fille était dans une lente mission suicidaire. Seulement, elle ne voulait pas mourir seule. Elle voulait emmener Sid avec elle.
Elle s'accrochait, la meuf. Hein. Allez, c'est parti.
We'll be right back.
36,6 en Sex Pistols.
On disait donc initialement qu'ils n'avaient vraiment tourné et fonctionné que 3 ans. Eh bien, Pistols va signer un contrat avec la maison de disques EM Records. Et pour fêter ça, ils vont retourner dans leur bureau. Tout content d'avoir une autre maison de disques. Et là, cette vicheuse qui était vraiment sur la fin, ivre mort, devient violent avec le directeur des bureaux et lui vomit sur le bureau, en fait. Donc après cet incident, c'est bon, l'affaire est close. ENA Records rompt son contrat, donc seulement 6 jours après avoir signé avec le groupe. Et dans les mois qui suivent, Sex Pistols va signer cette fois un nouveau contrat avec Virgin Records. Donc son troisième...
Revomissement.
Son troisième label en... Ouais, en...
Ils ont passé leur temps à gerber, en fait.
En à peine plus de 6 mois. Comment voulez-vous que j'arrive à vous raconter quelque chose? Et le second single de la formation, ouais, là, je pense en plus qu'il vous l'a passé tout à l'heure, Stéphane. Bon, ils l'ont enregistré en février avec un certain Chris Thomas. Et il est largement perçu comme une attaque à la reine Elisabeth du Royaume-Uni. Et Johnny Rotten déclare pourtant que le morceau ne visait pas personnellement la reine, mais établissait une critique de la royauté en général. Bon, cependant, c'est quand même une attaque qui a été perçue moins profondément par la population anglaise. Hein. La population est assez choquée. Le single est ensuite interdit à la diffusion par la BBC. Et Rotten fera remarquer, nous avions déclaré la guerre au pays tout entier et sans le vouloir en plus. Vraiment. Et c'est la célèbre pochette du single qui montre le visage de... La reine Elisabeth II, qui est cachée, obstruée un peu par le titre du morceau et le nom du groupe en lettres capitales, va d'ailleurs choquer les gens qui sont chargés d'imprimer la pochette. Et après discussion, leur production reprend et le single. Enfin, la production va reprendre et le single sort comme convenu en mai 77. Ils n'avaient peut-être pas trop le choix non plus face à Sex Pistols. Les paroles scandalisent. Elles sont considérées vraiment comme provocantes hein, pour l'opinion publique britannique, comme on le disait à l'instant. Donc c'est pas seulement la BBC, c'est plusieurs stations radio et télé qui vont refuser de le diffuser. Mais bon, finalement, toutes les chaînes indépendantes, évidemment, en ont fait le titre britannique le plus censuré de tous les temps.
Allez, suivant, le dernier. Dernier morceau avec quelques paroles en plus pour terminer l'émission.
Je ne vois pas comment quelqu'un peut nous décrire comme un groupe politique. Je ne connais même pas le nom du Premier ministre. Donc effectivement, Steve Jones et 77, l'éternel Malcolm McLaren et le nouveau label des Sex Pistols va réserver un bateau privé pour que le groupe puisse y jouer en naviguant sur la Tamise, en passant devant, en tout cas le long du Westminster et des chambres du Parlement, à peine provocateur. L'événement, qui est censé être une moquerie à la reine, se déroule deux jours plus tard, mais enfin ça va se terminer quand même dans le chaos. Beaucoup de membres de l'entourage du groupe, ainsi que Malcolm McLaren lui-même et sa compagne, hein, celle de la boutique sexe, sont arrêtés par la police. Et c'est le journal Daily Mirror qui prédit par ailleurs la première place du single dans les charts. Effectivement, hein, nous-mêmes on vous l'a passé tout à l'heure. God Save the Queen se positionne finalement, et non pas premier mais deuxième, derrière un titre de Rod Stewart.
Et c'est terminé pour les Sex Pistols. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine aussi, puisque ça sera avant. Et puis bah, tout simplement, à la semaine prochaine. Salut Marie-Ange, et puis à bientôt.
À bientôt à tous, et passez une bonne semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur de cette parenthèse.